Êtes-vous tanné, vous autres, d'entendre parler de la COVID? Ah, moi, je suis tanné, je suis à bout. J'essaie de me tenir un petit peu à jour de tout. On veut quand même être à jour pour qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Donc, j'essaie de suivre les nouvelles, mais là, cette semaine, je dis là, on slack. On met un petit break, là. C'est trop, là. C'est trop compliqué à suivre, là. Ça change tellement souvent, puis une personne dit une chose, l'autre dit le contraire, on ne sait plus. Qui croire, qui écouter. Mais ce matin, j'aimerais ça quand même. J'avais un sujet que je voulais aborder, que je jugeais important, qu'on puisse regarder ensemble, qui est un petit peu en lien justement avec, avec la crise, la COVID qu'on vit présentement. Puis j'aimerais ça qu'on revienne. Le sujet de ce matin, ça va être le sujet de Genèse 11, la tour de Babel. L'histoire, c'est la tour de Babel. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Mais avant ça, hein, on a quand même une coutume qu'on s'est donnée. Je sais que les enfants aiment bien les images, fait qu'on dit on va garder cette idée-là. Je vais juste prendre le. Donc, on fait le petit triangle, c'est pour les personnes qui l'écoutent de la maison pour qu'ils puissent savoir quand est-ce changer l'image. Donc, on voit la deuxième image. Donc, on voit c'est des inventions ce matin qu'on va regarder. Des innovations un petit peu loufoques, effectivement. Donc, on sait que souvent, quand on mange des nouilles à la chinoise, là, souvent les nouilles sont très chaudes. Donc, quelqu'un s'est tanné de souffler dessus, il a sorti cette magnifique invention, un ventilateur hein, sur ses baguettes. On se demande où sont les nouilles, hein? Est-ce qu'ils sont dans le bol, derrière les baguettes ou derrière l'invention? Mais en tout cas, OK. La deuxième. Est un petit peu songée, elle est sécuritaire, mais je pense qu'elle n'est pas tout à fait à point encore. Hein? Pas que le bébé, ça c'est pour Roxane, hein? Pas que le bébé ait de l'eau dans les yeux quand on lui lave la tête. Sauf qu'il y a. Oui, effectivement, merci. Donc, effectivement, je pense qu'il y aura peut-être un petit ajustement à faire pour qu'il puisse laver toute la tête, pas juste le haut, là. Mais la troisième, celle-là, oh oui, c'est pour encourager les enfants, dès leur jeune âge, à participer aux tâches ménagères. Hein? Regardez si c'est brillant. Hein? On met une vadrouille après les événements de bébé, donc hein, quand Roxane, plus besoin de passer la vadrouille, laisse le bébé se promener. J'en ai une autre qui, je vous demanderais, s'il vous plaît, de ne pas la partager avec la santé publique au cas où il y aurait l'idée de l'implanter. Hein? Donc, quand on est enrhumé, hein, ça pourrait être une façon de faire. L'autre est un petit peu inutile, mais c'est logique en même temps. Hein? Donc, c'est une planche à pain, hein, avec les miettes tombent dans le tuyau et dans la petite perruche, je peux manger les miettes de pain. Donc, ça, oui, c'est logique, mais je ne suis pas sûr que c'est compliqué un petit peu. Et la dernière, probablement que. Les mamies aimeraient ça, avoir cette invention-là, hein, pour ne pas se crocheter les pieds quand ils se lèvent la nuit, pas tomber, donc avec des petites lumières au bout des pantoufles. Maintenant, revenons à nos sérieux moutons. OK. Pour mettre notre texte, qu'on va regarder ce matin, dans son contexte, lors de la création, donc dans Genèse 1, 28, et Dieu l'a répété aussi dans Genèse 9, 1, il avait ordonné aux humains, il avait dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Ça, c'était le commandement que Dieu, le premier commandement que Dieu avait donné aux humains, avant de donner les 10 commandements, évidemment, mais dès la création, c'est ce que Dieu avait donné comme mission aux êtres humains. Après le déluge, c'est la première chose qu'il a répétée encore aux êtres humains. Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Mais voici qu'après le déluge, bon, les années ont passé, les décennies, probablement même quelques siècles, et bien que le souvenir du déluge soit encore bien présent dans la société de l'époque, sa méchanceté, son orgueil ont continué de croître eux aussi. Ils ont recommencé à adorer des idoles et leurs projets sont devenus bien loin des projets que Dieu avait pour eux. Alors, voici ce qui est arrivé. On va le lire ensemble. Si vous voulez tourner dans Genèse, chapitre 11, et le verset 1 à 9. On va les lire ensemble. Genèse 11, verset 1 à 9. C'est dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons-nous des briques et cuisons-les au feu, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pierres dans la vallée de Shinéar. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. » Faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. L'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. » On va prier avant d'entreprendre l'étude de ce texte. Bien oui, notre bon Papa du ciel, encore une fois, on veut te remercier pour ta parole. Des textes aussi vieux comme celui de la tour de Babel qu'on est en train d'étudier ce matin est tellement encore actuel aujourd'hui. C'est ma prière que ce texte puisse revivre et qu'on puisse vivre cette réalité, Seigneur, aujourd'hui. Les leçons que ça nous apprend, Seigneur, que c'est dit que ta parole a été donnée pour notre instruction. Et c'est ma prière. Qu'on puisse être instruit par ta parole ce matin. Prépare nos cœurs à recevoir ce que tu as à dire. Utilise ma bouche, Seigneur, pour bien communiquer aussi toute la richesse d'un texte comme celui-là. Et c'est en Jésus qu'on veut te prier. Amen. Donc, le premier point, c'est une arrogance effrontée, des versets 1 à 4. Je parle ici d'une arrogance effrontée parce que les hommes savait très bien ce que Dieu avait ordonné. Ça, c'est évident quand on lit pourquoi ils ont bâti, faisons-nous un nom pour qu'on ne soit pas dispersés. Donc, les hommes, en construisant cette tour, cette ville, il y avait un but. Et c'était de ne pas respecter, d'en faire à leur tête, de ne pas respecter ce que l'Éternel avaient demandé. Eux avaient un bien meilleur plan que Dieu. Ils ont voulu se faire un nom. Le nom de Dieu ne leur suffisait pas. C'est malheureusement ce qui existe encore même aujourd'hui, au 20e siècle. Souvent, même les enfants de Dieu cherchent à se faire un nom parce que notre identité et d'être des enfants de Dieu. Et ça, souvent, ça ne nous suffit pas. On veut se construire un nom, une réputation, une identité ailleurs qu'en Jésus-Christ. Puis ça, ce qu'on voit là, on peut se demander, est-ce que c'est quelque chose, c'est un cas isolé, est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé une fois dans l'histoire de l'humanité, ou est-ce que c'est quelque chose qui revient régulièrement? Malheureusement, lorsqu'on étudie un petit peu l'histoire, on se rend compte que c'est quelque chose qui est cyclique. De toutes les époques, toutes les populations ont cherché à se faire un nom, à se faire une réputation, pareil comme les premiers êtres qui ont peuplé la terre, finalement, ont cherché à le faire ici, dans Genèse 11. C'est un cercle vicieux qui revient constamment. Les hommes cherchent à se faire une réputation en mettant Dieu de côté. En ignorant Dieu, ils trouvent d'autres moyens pour avoir une réputation. Encore au 20e siècle, eh bien, ce cercle continue à tourner et à exister. Tous les peuples veulent être les meilleurs, les plus puissants. C'est exactement ce qui est arrivé quand ils ont construit, vous vous rappelez peut-être, pas pour les plus jeunes, vous n'étiez pas nés quand ils ont été détruits, mais les tours jumelles, qui est le World Trade Center, comme ils l'ont appelé, c'était des tours de 110 étages. Donc c'était immense, c'était énorme. Elles ont été les plus hautes tours du monde lorsqu'elles ont été construites. Ça a été après ça battu par un autre pays. Mais le but, c'était vraiment d'être les meilleurs. Ceux qui ont construit les plus grandes, les plus grosses tours, et ont fait des tours jumelles en plus. C'est pas pour rien qu'on les appelle les gratte-ciels, hein, parce qu'elles touchent au ciel, un peu comme on le voyait au verset 4. Leur but, c'était de faire une tour qui touche au ciel. Et aujourd'hui, on appelle ça des gratte-ciels. Et c'est un petit peu le même principe qui revient encore aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que les êtres humains ont eu l'idée de bâtir une tour qui touche au ciel? Dans notre texte ici, là. C'est une drôle d'idée, finalement. Hein? Ça aurait été bien moins compliqué. Il y avait toute la terre pour construire des maisons, là. Il aurait pu construire des maisons, ça aurait été bien moins difficile à faire, puis il aurait pu en faire tant qu'il en voulait, là. Il y avait tout le monde entier pour en bâtir. Eh bien, j'aimerais ça vous présenter deux possibilités, deux raisons pour lesquelles les êtres humains de l'époque ont choisi de se bâtir cette tour-là. Donc, premièrement, comme on l'a dit tout à l'heure, la blessure du déluge est encore bien présente, bien à vif dans le cœur des êtres humains. Ils avaient sûrement perdu des ongles, des dents, des ancêtres là, dans le déluge. Et c'était quelque chose qui était quand même sensible encore pour eux. Alors, s'ils se bâtissaient une tour qui dépasse le niveau où l'eau s'était rendue lors du déluge. Okay? S'ils se faisaient un bâtiment qui était plus haut, parce qu'il disait lors du déluge combien de coudées au-dessus de la plus haute montagne qu'il y avait eu d'eau, et si on se construisait une tour probablement plus haute que ça, bien s'il arrive un autre déluge, hein, on va déjouer les plans de Dieu, on va réussir à s'en sortir. Mais pourtant, Dieu avait promis qu'il n'y aurait plus de déluge comme celui-là. Mais rappelons-nous que ces gens-là ne croyaient pas en Dieu, ne croyaient pas Dieu. Donc, il y avait quand même à l'esprit d'être plus malin que lui. Il voulait être finalement plus puissant que Dieu. Il aurait même pu empêcher Dieu de les détruire à nouveau par un déluge. Quelle arrogance! Ensemble, nous sommes plus puissants que Dieu. Hein? Voilà ce qu'il tentait possiblement de démontrer par cette construction. C'est d'ailleurs ce que Dieu s'était dit devant ce projet-là. Vous vous rappelez au verset 6 de notre texte, on tourne deux images, j'en ai oublié une. Il forme un seul peuple, hein? Il dit, « Maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. » Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que parce qu'ils se seraient construits cette tour, rien ne les aurait empêchés? Bien sûr que non. Dieu aurait toujours pu intervenir. Par contre, c'est l'impression qu'ils auraient eue dans leur cœur. C'est ce qu'ils auraient eu comme sentiment maintenant, nous sommes invincibles. Maintenant, Dieu ne peut plus intervenir. Donc, bien que Dieu restait, peu importe ce qu'ils auraient fait, Dieu restait au contrôle, eux auraient eu l'impression. Et là, ça aurait été une occasion de progresser dans les péchés sans aucune retenue, parce qu'ils étaient maintenant au contrôle. Ils se sentaient en contrôle, en moyen. Dieu connaissait ce qu'il y avait dans leur cœur. Et c'est pour ça qu'il dit que rien n'empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Pas parce que Dieu est contre les projets. Dieu, je crois, est d'accord qu'on ait des projets personnels, individuels. On veut agrandir notre grange, hein, on veut réparer notre fifth wheel pour pouvoir aller en camping. Et c'est bien d'avoir des projets familiaux, des projets personnels, des projets d'église aussi. Mais c'est les projets qui sont selon le cœur de l'homme, qui nous amènent à pécher, hein, à ouvrir des institutions qui vont permettre justement ces péchés-là. Et c'est ça que Dieu voulait empêcher. Donc Dieu connaissait bien le cœur de l'homme. Mais c'est aussi ce que les États-Unis voulaient dire à travers les deux tours jumelles, qu'ils ont appelé le World Trade Center, donc le centre de commerce international, on pourrait dire. Donc, les gens de Babel voulaient garder le contrôle et ne pas le laisser à Dieu. Dieu leur avait pourtant laissé un commandement très simple, du moins, en tout cas, bien plus simple que celui qu'ils avaient eu avec cette histoire de tour. Donc ça, je pense que c'est probablement la première raison de la construction de la tour. La deuxième, c'est qu'ils pensaient que cette construction les empêcherait d'être dispersés, comme nous dit, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Donc, elle les garderait unis, contrairement à ce que Dieu leur avait ordonné. Cette tour devait être le symbole de leur union, le symbole de leur puissance à la place de Dieu. Il est d'ailleurs probable que cette tour, une partie de cette tour était dédiée à un autel. C'est ce qui se faisait, c'est ce qu'on voit dans l'histoire qui s'est faite dans les siècles suivants. Des tours qui ont été bâties de ce genre-là, peut-être un peu moins grande envergure. Et il y a une partie de la tour qui était consacrée, c'était un autel à un dieu païen. Et même, ils offraient souvent des sacrifices humains sur ces tours-là. Donc, probablement, c'était le même type d'autel qu'ils étaient en train de construire. Revenons encore aujourd'hui. Pourquoi vous pensez que le World Trade Center a été la proie d'attaques terroristes? On parle de celui de 2001 qui a détruit les deux tours jumelles, mais en 1996, il y avait aussi eu une attaque à un camion chargé d'explosifs qui avait explosé dans les sous-sols des tours jumelles. Il avait dû fermer les tours pendant plusieurs semaines pour réparer les dommages. Mais c'est parce que le World Trade Center était le symbole de la puissance américaine. Le nom des États-Unis d'Amérique était associé à ces deux gratte-ciels. Quelle idée innovatrice, vous ne trouvez pas? Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Donc, je pense que c'est probablement de ces deux raisons-là, pourquoi les êtres humains ont construit cette tour, l'arrogance finalement des êtres humains. Deuxièmement, notre Dieu déjoue les plans des hommes. C'est le cas de le dire, Dieu les a pris au mot. Rappelez-vous le premier verset de notre texte, hein? Il y avait une seule langue, les mêmes mots. Hein? Dieu les a pris au mot tellement qu'il a confondu leurs mots. Dieu a confondu leur langage de sorte qu'ils ne se comprenaient plus les uns les autres. Imaginez-vous si ici, dans la pièce, bon, on était une ville, bon, bien petite ville, peut-être un village, ou on appelle ça un fief, le plus, à la quantité qu'on est, mais que tout à coup, chaque famille se met à parler une langue différente. Quelle cacophonie, premièrement, quel étonnement. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu marmonnes comme ça? Je ne comprends rien de ce que tu dis, là. Parle comme il faut, enlève ton masque, que je t'entende parler un petit peu, finalement. Mais non, Dieu a confondu les langages, puis plus personne ne se comprenait, là. Donc, c'est vraiment une langue complète qui était parlée. Je crois que Dieu a quand même respecté les familles. Je ne pense pas que Dieu, à travers ça, l'homme parlait le papa parlait une langue, la maman une autre. Je pense que Dieu a quand même, probablement par famille proche, au moins, Dieu a quand même respecté ça. Mais imaginez-vous comment on se sentirait tout à coup. On n'est plus capable de communiquer d'aucune façon avec l'autre. Je pensais à ça ce matin, puis je me disais, bon, il y a des voisins, chez nous, on est plus proches, on a plus d'affinités, c'est des francophones. Puis il y en a d'autres qui, je me demandais pourquoi on a plus de difficultés. Pourtant, on voit que les gens veulent qu'on ait une bonne communication, mais ils sont anglophones. Et bon, l'ancien propriétaire avait mis une headset, me disait, je pense que la langue est une plus grosse barrière que notre fameuse headset qui a été mise là. Parce que personnellement, moi, c'est lourd sur mes épaules. Communiquer en anglais, je vais être capable de m'exprimer, là, mais c'est difficile, eux ne parlent pas du tout français. Par contre, ils veulent envoyer leurs enfants à l'école francophone, puis ils veulent qu'on les aide à pratiquer les enfants, là. Mais c'est ça que je me disais, la langue devient une barrière, un mur, vraiment. Surtout quand on ne connaît pas du tout la langue. Marie-Ève, je sais que tu as étudié une langue qui n'avait pas la même racine que nous. C'était quelle langue? C'était le mandarin que tu as appris? Comment tu as trouvé ça par rapport à l'espagnol ou à... Oui. Mais effectivement, parce que ça n'avait pas la même racine. Aujourd'hui, si on parle du français, de l'anglais, de l'espagnol, il y a toute la même racine latine, finalement. Donc, on peut, quand on écoute quelqu'un, même si on n'a jamais entendu l'espagnol, on écoute un espagnol parler, on réussit à comprendre un petit peu le fil de ce qu'il est en train de dire, parce que les mots se ressemblent, puis la structure se ressemble. Lorsqu'on parle d'une nouvelle racine de la langue, là, ça n'existe plus, ça. On n'a plus aucun repère, et là, c'est vraiment une montagne de pouvoir communiquer un avec l'autre, et c'est ce qui est arrivé à ce moment-là. Donc, à cause de ça, il était même rendu impossible pour le maire de la ville, bon, disons le chef de la ville à l'époque, de pouvoir communiquer avec les citoyens. Comment voulez-vous dire aux citoyens qu'il vous doit 100 $ si vous ne parlez pas la même langue? Il ne sait pas c'est quoi 100 $ lui. Donc, il est impossible de communiquer. Donc, Dieu, il a dit, les a dispersés. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Que l'Éternel les a dispersés sur toute la surface de la terre. Est-ce que ça veut dire que, parce qu'ils ne parlaient plus la même langue, naturellement, ils se sont éloignés les uns des autres et se sont dirigés? Ou est-ce que Dieu les a physiquement amenés ailleurs? Sur la terre, lui-même. Bon, je pense qu'on pourrait avoir tout un débat juste sur cette question-là. Personnellement, j'ai l'impression, en lisant notre texte, peut-être à 60% plus probable que Dieu les a vraiment, physiquement, dispersés partout sur la terre. Ça l'ajouterait justement, ça rendrait plausible le fait que des nations se sont retrouvées en Amérique, que d'autres nations se sont retrouvées en Australie, si c'est Dieu lui-même qui les a dispersés. On voyait au chapitre 10 qui précède, excusez-moi, ça c'était le verset 8, qui disait que Dieu les a dispersés, mais après, j'ai trouvé une illustration qui montrait un petit peu où je ne vais pas revérifier là, comment ça avait été fidèle au texte, là, mais au verset 10, il mentionnait où c'était en aller toutes ces tribus-là, finalement. Et on voit que ça couvre toute l'Europe, l'Asie, une bonne partie de l'Afrique aussi. Donc, ça l'explique déjà que c'était vraiment loin comme distance. Mais si on se dit que bon, des familles pouvaient être beaucoup plus nombreuses, donc probablement que les familles immédiates avaient le même langage, mais peut-être que l'oncle ou la tante, eux autres, avaient une autre langue. Donc, même s'il y a eu ces tribus-là qui ont été là, je ne pense pas que ça l'empêche que Dieu peut en envoyer ailleurs dans le monde. Ce qui expliquerait justement toutes ces premières nations dans ces endroits-là. Mais c'est une supposition personnelle, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas sur une exégèse sérieuse du texte que j'affirme cela. Mais ce que l'on peut noter aussi dans notre texte, lorsqu'on regarde ce récit à partir du chapitre 9, c'est que tous les êtres humains ont les mêmes descendants. Tous les êtres humains sur Terre descendent de Noé. Évidemment, d'Adam et Ève aussi, là, mais ça l'aurait serré. À partir de Noé, on a tous les mêmes ancêtres. Donc, on est tous petits cousins à plus ou moins grande distance. Peu importe les peuples qu'on est, on est tous de la race humaine, finalement. Donc, quand les êtres humains font de la discrimination raciale, ils sont en train de discriminer des petits cousins, probablement. Donc, ça peut être 4, 5, 6, 10 générations plus loin, mais on est tous parents au plus loin à partir de Noé. Donc, peu importe les nations que nous sommes. On fait tous partie de la race humaine, seulement on a certains traits très distinctifs qui font partie de notre génétique, un peu comme on voit dans les croisements des races de chiens. Quand tu croises des chiens qui ont une tendance, mettons, à être plus petits, tu vas faire une petite race. Et un chien qui a le poil long, tu fais des croisements, tu vas avoir des chiens qui ont le poil long, d'autres le poil frisé, ou vous comprenez l'idée? Mais je pense qu'il y a des choses génétiques qui ont fait que les races aujourd'hui sont tellement différentes, mais on est tous des êtres humains, on est tous cousins. Il y a aussi la culture qui a fait qu'on soit bien différents les uns des autres, mais rappelons-nous toujours qu'on est tous petits cousins. Maintenant, pour revenir à notre texte. Hein, Dieu a enlevé ce qui faisait la force ou l'orgueil des hommes. Ils ne formaient qu'un seul peuple et ils ont voulu utiliser ça comme une force pour résister à Dieu. Mais Dieu, bien loin d'être impressionné par ce petit avantage, les a confondus. C'est un peu comme si, je ne sais pas moi, Caleb essayait de construire un barrage sur le fleuve Saint-Laurent avec son petit Anka. Mais ce que les êtres humains ont essayé de faire avec les histoires de Tours, c'est à peu près équivalent à ça. Ah non, moi je suis bon, je vais faire un barrage, je vais l'arrêter, le fleuve Saint-Laurent, là. Pauvre petit gars, il va travailler longtemps, puis ça ne servira à rien. Hein? Bien, c'est un petit peu ce que les êtres humains ont essayé de faire. Alors, bien que leur langage commun a été pour eux une raison de se rebeller contre Dieu, eh bien, la confusion de leur langage a été la raison pour obéir finalement à Dieu. Bon, un petit peu le bras dans le dos avec la clé de bras, là, mais Dieu les a obligés à obéir à ce qu'il avait ordonné en confondant le langage. Donc, la tour de Babel, le mot lui-même, Babel, ça signifie confusion. Hein? Quelle confusion, vous en conviendrez avec moi. L'apparition des langues de Genèse 11 dans notre texte a donc été dans un sens un jugement de Dieu devant la rébellion des hommes. Mais en étant un jugement, les langues auraient aussi été un obstacle pour que quelques millénaires plus tard, lorsque Jésus-Christ est venu sur la croix, pour propager la bonne nouvelle. d'accord avec moi. Oui, ça a confondu les langues, ça a permis qu'il y ait les gens partout sur le globe terrestre. Mais en même temps, lorsque le Jésus-Christ est venu pour propager cette bonne nouvelle-là, c'était tout un obstacle maintenant. L'obstacle des langues. C'est pour ça qu'on voit dans le livre des Actes que la première grande prédication après la résurrection de Jésus-Christ, on voit que les apôtres ont commencé à parler en langue. Donc Dieu a comme pourvu une façon de contourner cet obstacle-là. Et ce qui était spécial, c'est que les gens n'ont pas entendu parler dans une langue qu'ils connaissaient. Tout le monde entendait parler de la bonne nouvelle dans sa langue maternelle. Dans sa langue maternelle. Donc, même s'il connaissait deux, trois, quatre langages, il entendait dans la langue qui était le plus à l'aise. C'est ce que Dieu a fait, finalement. Il a confondu les langues dans Genèse 11, mais dans Acte 2, il a donné une façon, donc le don des langues à ce moment-là, pour que toutes les nations puissent entendre cette merveilleuse nouvelle. Donc, le jugement s'est transformé en grâce à la Pentecôte dans le livre des Actes. Troisièmement, je vais juste faire une petite application contemporaine de ce que le texte de Genèse 11 nous dit. Vous avez remarqué mon titre, hein? Je n'ai pas écrit la tour de Babel, j'avais écrit la tour de Bébel. Eh bien, ce n'est ni une faute d'orthographe, ni une faute de mon correcteur, hein? Mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est bien le titre, la tour de Bébel et non Babel. Ce qui suit en passant, ce n'est pas une prophétie, ce n'est pas une révélation spéciale que j'ai eue, c'est juste une application que je trouvais importante de faire ici, une possibilité qui est importante, je crois, à tenir en ligne de compte et à réfléchir. Donc, notre société courait avant toute cette pandémie à vitesse grand V vers ce qu'on appelait la mondialisation. En fait, toute la Terre se dirigeait vers là. Avec toutes les bébelles technologiques de nos contemporains, ils s'imaginaient qu'avec ça, ils seraient plus puissants, qu'ils pourraient même se passer de Dieu avec un gouvernement mondial. En effet, en 2019, la distance n'était plus un obstacle. Avec la mondialisation, avec Internet, avec les cellulaires, les conférences virtuelles, le marché économique qui est contrôlé de chez nous, même si on veut. On peut même aujourd'hui s'acheter une maison, une propriété à l'autre bout du monde en restant à la maison, si on le veut. Avec les vols internationaux, hein, les jets privés et tout ça, une personne peut faire une conférence à 18 heures en France, puis en avoir une autre à 20 heures ici à Montréal. Évidemment, c'est aidé avec le décalage horaire, là. Mais ça serait quelque chose qui était possible. Donc, beaucoup de belles bébelles qu'on avait, vous ne trouvez pas? Tout cela, c'était devenu notre orgueil. Avec toutes ces possibilités, avec toutes ces belles opportunités, pourquoi aurions-nous encore besoin de Dieu? Avec un gouvernement mondial, nous serions blindés même contre l'intervention, contre le doigt de Dieu finalement. Oh là là! Hein? Ceci ne vous rappelle pas quelque chose? Nous nous étions construits une belle tour avec nos bébelles finalement. Tout cela était devenu notre orgueil. Alors que le gouvernement mondial gagnait de plus en plus de terrain, voilà qu'arrive un minuscule virus, hein, qui a pris de l'ampleur et qui a tout chamboulé, tous les beaux plans que l'humanité est en train de se construire. Tout à coup, on entend parler d'autonomie nationale. l'autonomie nationale, mais aussi l'autonomie personnelle. Donc, des livres comme ça sont sortis sur l'autonomie alimentaire. On valorise le retour aux sources dans notre alimentation et les jardins ont maintenant la cote comme jamais. On regarde aussi la possibilité d'élever nos propres petits animaux à la maison. D'ailleurs, à un moment donné, les coops étaient en rupture de stock au niveau des poussins. Il y avait tellement de demandes que les gens ne fournissaient plus. Eux, ils ne fournissaient plus à avoir des petits poussins. On a aussi interdit les voyages à l'étranger. On a fermé les frontières. On invite plutôt les gens à explorer leur propre province, leur propre partie de pays maintenant. Résultat, les véhicules récréatifs sont eux aussi en rupture de stock présentement. Il y a eu tellement de demandes qu'ils ne fournissent plus, soit pour les locations ou même pour les ventes de véhicules récréatifs. Donc, l'économie mondiale s'est avérée d'une fragilité insoupçonnée. Alors, on nous demande maintenant d'acheter localement. La simple mention, probablement vous réagissez de la même façon que moi, lorsque vous magasinez, là, vous prenez le temps de regarder où c'est fabriqué. Hein? Et on dirait, il y a un réflexe lorsqu'on voit « Made in China », on remet sur la tablette. Hein? On dirait que là, on a compris que c'était important, tout à coup, hein, c'était le discours contraire qu'on avait avant, mais tout à coup, c'était important de trouver quelque chose qui serait fabriqué localement. D'ailleurs, l'autre fois, on a acheté un item, une corde à linge, puis il était écrit « Made in Canada ». Puis le premier item que je sors de la boîte, il y avait une étiquette « Made in China » dedans. Je me dis « Ah non, c'est pas vrai ». En tout cas, mais effectivement, il y a une sensibilité qui est arrivée, qui n'était pas là avant. Tout à coup, l'idée d'un gouvernement mondial a pris du recul. Et même que les mauvais desseins de certaines nations ont été mis au grand jour. Ceux qui promouvaient une collaboration internationale ont maintenant bloqué la livraison de matériel de protection individuelle qui était destiné à notre pays. Donc on s'est rendu compte, oups, dans un contexte comme celui-là, c'est au niveau des pays, c'est chacun pour soi. Puis le gouvernement le disait, on va jouer serré, on va arriver avec de l'argent cash, on va prendre tous les moyens pour pouvoir avoir l'équipement de protection. C'est devenu une guerre, finalement, entre les pays pour avoir ces ressources-là. Donc, nos amis sont devenus soudain nos rivales. Donc, ce qu'on entend maintenant, c'est qu'on doit serrer les coudes localement, mais plus internationalement, tout à coup. On a changé complètement notre fusil d'épaule. C'était totalement le discours contraire qu'on entendait il y a juste 6 mois passés. Donc, est-ce que ce serait possible que ce soit Dieu qui soit venu confondre notre société? En tout cas, tout le monde nage aujourd'hui dans la confusion et ça, je suis le premier qui est confus. On ne sait plus qui écouter, on ne sait plus qui croire, on ne sait plus avec toutes les règles contradictoires qui nous sont imposées, laquelle que je dois suivre, le gouvernement dit une chose, la santé publique dit l'autre, tu parles à une personne, elle dit une chose, tu parles à une autre personne, la santé publique, elle dit d'autres choses. Tellement de confusion. Donc, on pourrait se demander, est-ce que ça peut être le doigt de Dieu? Est-ce que c'est le signe d'une intervention divine dans ce qu'on vit présentement? Je crois que ça vaut la peine de se poser la question. Faisons attention de ne pas tirer des conclusions trop hâtives, trop vite, trop gratuites, mais posons-nous quand même la question. Hein? Ce qu'on sait par contre, ce qui est certain, c'est que Dieu est souverain et que ça faisait partie de son plan. Ça, on ne peut pas en douter, c'est une évidence. Alors que notre société avait envie de lever le poing en l'air et d'affirmer « désormais, rien ne nous arrêtera plus », bien, oups, Dieu nous a montré que cette affirmation était totalement gratuite et non fondée. Car lui demeure toujours le seul qui est en plein contrôle de tous les aspects de notre société. Un simple petit virus est plus solide que même toute notre économie, toute notre structure mondiale. Notre tour de Babel, de Bébel, finalement, ne valait pas grand-chose à comparer à notre grand Dieu. Reste maintenant à savoir si ce que les gens ont appris à travers cette crise va rester imprégné dans leur cœur ou si ça va être juste passager. Si après cette crise, ils vont tout simplement passer à autre chose et oublier ce qu'ils ont appris pendant cette crise. Donc certainement, un de nos rôles est de prier que ce qui se passe présentement puisse avoir un impact sur notre société. De prier que les gens réalisent qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes ces choses-là. Qu'il y a un Dieu qui est souverain et que, oui, on doit lui donner notre vie. Oui, on doit se consacrer à lui. Oui, on doit adorer un Dieu comme lui. Parce qu'il en vaut vraiment la peine et c'est lui qui est finalement notre identité. Pas un gouvernement mondial, pas une tour de Bébel qu'on se serait montée. Notre identité, frères et sœurs, est en Jésus-Christ. Ça, c'est sur le roc. Ça ne changera jamais. Aucun virus ne va venir enlever ça. Aucune autorité ne va venir nous enlever notre autorité. Nous sommes des enfants de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Prions. Et oui, Papa du ciel, je te remercie pour un texte comme celui qu'on a vu ce matin. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu souverain, tu es le Dieu tout-puissant. Merci parce que rien n'échappe à ton contrôle. Merci de ce qu'on peut avoir cette paix dans nos cœurs. Qu'on peut avoir la paix que Seigneur, rien ne va arriver que toi-même tu vas avoir orchestré. Seigneur Dieu, certainement on veut te prier pour nos contemporains, pour les gens qui nous entourent. On te prie que ces événements puissent les attirer à toi. Seigneur, qu'ils puissent voir ta grandeur à travers ça, ta puissance. Comment ils puissent voir la faiblesse aussi de notre société, la faiblesse de toute l'humanité que s'est construit avec un jeu de cartes, Seigneur Dieu, et que le moindre coup de vent va tout emporter. Seigneur Dieu, glorifie ton nom. Aide-nous à avoir le privilège d'ouvrir la bouche, le privilège de briller pour toi aussi, parmi nos voisins, nos amis, nos confrères de travail, nos familles, Seigneur. Et c'est en Jésus qu'on veut te prier. Amen.